Et ce soir, nous avons en direct et par téléphone François Bon. Merci beaucoup, François, d'être avec nous au téléphone. François, allô ? Allô, François ?
Oui.
Ah, voilà ! Donc, nous allons parler, mais je te remerciais d'être avec nous en direct par téléphone. Et est-ce que tu m'entends bien ?
Je manque un petit peu de volume dans le retour, mais...
Alors voilà, est-ce que là tu m'entends mieux ?
Mieux, voilà.
Voilà, c'est parfait. Donc, nous allons parler de Publi.net qui a été lancé le 1er janvier 2008. Alors, ma première question, c'est Publi.net, comment cela fonctionne ?
C'est pas la question, c'est purement technique, ça va être vite fait. On va sur le site, on se balade dans les textes, il y a de gros extraits, mais nous on fait un gros boulot aussi de mise en page, correction, relecture, on paye des serveurs et tout ça. Et donc si on veut se procurer le texte intégral, eh bien on contribue par une petite somme de 5 euros, dont la moitié est reversée à l'auteur. Ça c'est le principe technique, et on paye avec... une carte bleue via PayPal, tout simple.
Alors, ça se présente comment, Publi.net ? On va sur Publi.net et là, on tombe sur différentes rubriques.
Le problème avec le numérique, c'est que justement, on peut balayer un spectre beaucoup plus large. Moi, c'est un petit peu partie d'une collection que j'ai au seuil et un petit peu la rage de se dire, bon, on a droit à 6 bouquins par an, mais il faut s'assurer de validité commerciale, il faut... c'est un long processus amorcé loin en avance, ce qui est bien parce qu'on peut faire un travail d'excellence. Et en même temps, ça m'amenait à prendre connaissance d'un tas de textes et de découvrir que finalement, en particulier pour ceux qui arrivent à l'écriture aujourd'hui, les formats entre des fois des choses en 30, 50, 90 pages ou... le travail de mise en page ou tout ça, l'édition graphique peut plus le prendre en charge. Par contre, avec le numérique, on peut se permettre d'avoir un spectre comme ça, peu importe si on en a 200 ou 300, on peut se permettre. Donc, comment l'organiser ? Alors, je voulais garder un peu ce côté expérimental. On a appelé ça zone risque. Il y a des auteurs qui me donnent, par contre, ils sont des gens publiés qui, eux, on a tous derrière nous, non pas dans nos tiroirs et tout ça, mais autrefois les revues, on les trouvait partout. Ben, c'est plus le cas. Des conférences, des interventions, tout ce travail-là, des choses qu'on a pu mettre dans des livres qui sont plus disponibles. Donc ça, j'ai appelé ça l'atelier des écrivains, et puis... Et ainsi de suite. J'ai voulu aussi une petite une rubrique avec des formes brèves, des textes de 20-30 pages à 1 euro. Et pareil, 50 centimes pour l'auteur, 50 centimes pour les serveurs. Mais
et on trouve aussi également des textes de création. Je pense aux textes de Masséra, par exemple.
Ouais, voilà, ça c'est ce que j'ai appelé cette zone risque là.
Voilà, une zone risque, c'est-à-dire qu'on est au cœur là des préoccupations des écrivains. On est dans leur atelier d'écriture donc.
Sauf qu'atelier d'écriture, on utilise ça pour l'écriture créative et tout comme ça, disons l'atelier des écrivains, ouais, c'est plutôt là.
Alors, pourquoi avoir créé Publi.net, ça répond à toi, à quelle nécessité ?
Je me pose pas la question, ça fait... C'est-à-dire, j'ai toujours eu l'impression que pour moi, la littérature, elle a toujours été comme ça, respirée aussi par les textes des autres. Y compris quand je suis arrivé, quand j'ai publié mon premier bouquin, moi, ça remonte à 1982. C'est pas jeune, mais à l'époque, je me souviens très bien la revue d'Igraph, la façon dont, à la fois, les auteurs qui étaient publiés, Jean-Paul Gou, La Genardière, Rista, Bénézé, tout ça... Il y avait une espèce de laboratoire où on avait l'impression que des gens comme Jean Thibaudeau, qu'on pouvait attraper ces formes-là, et que c'est ça qui nous mettait à écrire comme ça. C'était comme si le contemporain avait toujours été un chantier collectif. Pareil avec Action Poétique, mais pareil aussi avec Tel Quel, ou L'Infini, ou d'autres. Et je crois que ça, on l'a un petit peu perdu. Alors, quand j'ai commencé à faire de l'Internet, j'ai toujours eu cette idée-là comme ça, que davantage dire ce qui compte, il fallait le dire, mais que dire ce qui compte, c'est pas simplement, et peut-être là c'est une question spécifiquement Internet, c'est pas simplement faire de la critique de bouquins ou dire voilà j'ai lu ça, allez le lire parce que c'est bien. C'est ouvrir le laboratoire. Alors ça, on a fait longtemps ça avec des copains et on continue, ça s'appelle remue.net. Et donc c'est une revue en ligne, mais revue en ligne, je crois que j'avais un petit peu touché les limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même monter les curseurs. Il faut du temps, il faut des logiciels. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est ça. Si on veut avoir, comment dire, on est tous des heures devant nos écrans. C'est un lieu de pratique d'information, de pratique privée, de pratique sociale, mais aussi de pratique culturelle, de pratique esthétique. Dans ce lieu-là, à nous d'implanter la littérature et d'aller faire de la littérature, d'aller mettre le poison ou le côté vénéneux de la littérature, ou le côté dangereux de la littérature. Et se balancer à cet endroit-là, bon, ça pose un peu aussi... pas la question d'un modèle économique, c'est pas pour tomber à ça, mais moi j'ai pensé à ça simplement sous terme de coopérative d'auteurs. On s'organise ensemble pour faire quelque chose de bien, on travaille sur l'ergonomie écran, sur les pouvoir lire aussi sur les petites tablettes numériques, là il y a le Sony qui arrive, le Kindle d'Amazon, il y a plein de trucs, lire sur un iPhone, tous ces machins-là. Bon, c'est des implications de temps, quoi.
Oui, parce que on a l'impression quand on lit les textes sur publi.net qu'il y a vraiment une réflexion sur la lecture écran. Enfin, tout ça c'est très ergonomique, c'est très très pratique. Du coup, les textes qu'on trouve sur publi.net sont très pratiques à lire à l'écran.
Mais en ce moment, c'est un domaine qui va ultra vite et qui est un virage. Il suffit de repenser chacun sur quelle bécane on travaillait il y a 2-3 ans et sur quelle bécane on travaille maintenant. Et combien d'heures on y passait il y a 2-3 ans et combien d'heures on y passe maintenant. Mais en même temps, on est dans un contexte où de plus en plus de ressources ne peuvent avoir d'existence que numérique. C'est-à-dire les livres de critiques, par exemple, qu'on trouvait encore qu'on pouvait éditer il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, des travaux sur Guillotat, sur Artaud, mais c'est 300, c'est 400 exemplaires. Et dans un contexte aussi où les livres, c'est une rotation de plus en plus rapide, avoir sa place en librairie, c'est difficile et tout ça. Alors, c'est pas des systèmes qui se mangent les uns les autres, c'est des écosystèmes complémentaires. Je pense qu'au contraire, quand un nouveau livre arrive, là récemment, il y a Claro là, qui publiait une espèce de folie sur Flaubert, qui s'appelle Madman Bovary. Donc ça posait plein de questions sur la réécriture, la transcription, la traduction. Bon, Claro, en discutant chez lui, il avait 4 conférences récentes sur qu'est-ce que c'est pour lui traduire Gadis. Le danger de la traduction, c'est quelque chose comme ça. Bon, ben ça, on peut le mettre sur Internet et travailler ensemble pour donner validité, quoi.
Tu fais retravailler les textes des personnes que tu publies sur publi.net?
Au seuil, je crois que je commence à apprendre ce boulot, c'est-à-dire, moi je serai toujours auteur et jamais éditeur. À un moment, j'ai rencontré des grands éditeurs, et le premier ça a été Jérôme Lindon, des gens qui n'écrivaient pas pour eux, et qui peut-être vivaient la relation avec leurs auteurs comme un... pas comme un fantasme, mais avec du fantasme dedans, c'est-à-dire je publie ce que je ne saurais pas écrire ou ce que j'aurais souhaité écrire. C'est toujours une relation miroir, une relation à risque aussi, cette relation auteur-éditeur. Moi, je reste dans le camp auteur, j'ai mon travail à moi. Par contre, dans ce travail, on est au coude à coude et on regarde la même direction. Ça n'empêche pas de se dire des trucs, ça n'empêche pas d'accompagner. Je veux pas que sous prétexte que ce soit du numérique, si c'est pour mettre des fonds de tiroir, ça vaut pas le coup. Par contre, dans cette idée de laboratoire, accompagner, travailler ensemble, prendre le même risque qu'on prend quand on discute sur édition graphique, édition traditionnelle, ben oui, c'est le même processus d'édition. Peut-être qu'on va le faire autrement, avec un comité de lecture, comité de publication, mais... C'est vrai que la responsabilité éditoriale, elle est toujours la même.
Pourquoi il n'y a pas d'autres expériences de ce type sur Internet? Bon, il y a légèrement manuscrit sur Léocher, sur le site Léocher, mais ça n'a rien à voir.
Moi, je l'ai fait, mais...
Ça n'a rien à voir du tout.
Moi, c'est un truc, c'est des choses qu'on marinait longtemps, parce que, bon, Remue.net, ça a quand même été plusieurs années d'expérience. J'aurais bien voulu travailler avec un des éditeurs que je croise pour mon boulot, et pas m'embêter moi à faire des trucs comme ça de commerce ou de machin qui me concerne pas directement, même les choses techniques à la limite. Encore que sur Internet, c'est peut-être ça qui est fascinant, c'est on peut pas expérimenter côté littérature sans mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que quand on réfléchit au concept même de texte, de ce qu'on fabrique, les questions de mise en page. Par exemple, quand on travaille sur les petits lecteurs numériques, le texte se reconfigure en permanence selon les grossissements qu'on demande, ou selon qu'on tient la machine horizontalement ou verticalement, etc. Les informaticiens parlent de texte liquide. Bon, nous, littéraires, on prend cette notion, et qu'est-ce que ça change à notre façon de raconter une histoire? Est-ce que ça marche aussi si on travaille sur des formes rompues telles que le vers et la poésie? Les relations aux images. On écrit, il n'y a pas un auteur aujourd'hui qui ne travaille pas avec une documentation qui passe par Internet, qui ne pratique pas lui-même le travail avec les images. Autrefois, on publiait un livre et puis ensuite on allait le lire à voix haute. Avec Internet, la lecture à voix haute, elle est d'emblée, elle peut être nativement aussi dans le même atelier. Alors, toutes ces questions se rejoignent, quoi. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça l'idée, en fait. Je m'excuse de bafouiller de tour à Orléans. Peut-être que c'est pas finalement un hasard si c'est depuis la pratique d'Internet que peuvent naître ce genre d'expériences. Et il y en a pas, il y a pas que la nôtre, quand même. Il y a quand même, si je regarde dans mes liens, là, puisque à distance j'ai mon ordi devant moi, Zazie Web, Libre Critique, Inventaire Invention, Poésie Bao, Désordre, Liminaire.fr me parle de Fred Griot, etc. On est quand même dans un basculement, quoi.
Et alors, 4 mois après le lancement de Publi.net, est-ce que tu en as fait un petit bilan ou...
si j'avais su ce que ça nous aurait, parce qu'on est plusieurs maintenant, demandé de travail, peut-être j'aurais pas eu le courage, ça c'est sûr. Bilan, il est beaucoup trop tôt. Là, on est dans une phase où tous les... J'avais pas du tout prévu, par exemple, qu'on mettrait ce site à disposition des bibliothèques. Or, là, on vient de tout dédoubler avec un site miroir où, du coup, le texte intégral est disponible, mais c'est la bibliothèque qui paye un abonnement et qui permet à ses lecteurs d'avoir, comme ça, sans arrêt, le catalogue entier à disposition. Et ça, bon, voilà, alors du coup, ça nous ouvre une autre possibilité. Du coup, c'est les bibliothèques universitaires qui s'y intéressent et les universitaires qui nous disent, mais si on mettait des textes de théorie, de critique et tout ça. Alors, pour l'instant, c'est une expérience, on voit, je vois pas trop encore les bords, quoi. Sauf que je vois bien le pays inverse, c'est-à-dire, je vois les difficultés accrues côté édition librairie et que même justement pour soutenir les démarches les plus vives, les plus importantes, à nous de dire cette démarche-là compte, cette démarche-là est importante et donc la faire goûter, en donner comme ça mettre à disposition comme ça ce travail numérique, c'est aussi le meilleur moyen de soutenir le travail traditionnel. Tous ces deux trucs vont ensemble. Mais je sais pas, pour moi, là, j'ai pas de...
C'est pas encore l'heure du tout des bilans.
Ouais. Là, j'apprends. On découvre... c'est-à-dire qu'on a plein de questions à régler dans tous les sens. Comment on catalogue ça? Est-ce qu'il y a des normes? On n'a pas d'ISBN, par exemple, ce qu'on mettait autrefois sur les livres. Alors, comment on protège ces textes-là? Est-ce qu'il faut les protéger aussi par des trucs contre la copie? Et qu'est-ce qui se passe si nous, auteurs, on dit, ben non, finalement, on préfère prendre le risque. Tant mieux s'il se copie, et puis, de toute façon, si vous aimez ce texte, ben, vous nous demanderez de venir le lire à haute voix. Et donc, c'est toutes ces questions-là qu'on met, qui sont en bascule. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est question d'ergonomie écran, quoi, sur... comment on navigue, comment on peut intégrer justement images, sons, etc. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore... on commence à peine tout ça, quoi. C'est pas en quelques mois tout ça.
Donc il y a encore beaucoup à faire, et c'est ça qui est passionnant, alors. Ben, merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous par téléphone pour nous parler de remue.net. Merci beaucoup, François.
Donc c'est www.publie.net.
Merci beaucoup, François.
Et là, pardon ? Il y a du texte.
Et il y a du texte. Merci beaucoup, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.